C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, plus de 80% de l'alimentation mondiale est produite par des exploitations familiales. Et pourtant, parmi les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, les deux tiers sont justement des petits paysans. Un paradoxe particulièrement visible en Afrique subsaharienne, mais qui n'est pas une fatalité. Il faut améliorer les méthodes de production, notamment en diffusant l'agroécologie, développer le stockage des récoltes, permettre aux paysans d'accéder à la terre et que les gouvernements investissent enfin dans l'agriculture. Mais il faut aussi valoriser les productions des paysans des pays en développement pour leur faire une place dans notre économie globalisée. C'est l'objectif justement de l'indication géographique.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Aurélie Amim-Richard.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Pour faire simple, vous accompagnez des groupements de producteurs justement dans cette démarche ?
L'AFD accompagne depuis de très nombreuses années les exploitations familiales à travers le monde, qui constituent la principale forme d'organisation de l'agriculture, notamment en Afrique, avec 500 millions d'exploitations agricoles qui emploient 40% de la population active. Donc cette mission d'accompagner ces groupements de producteurs font partie du cœur d'activité de l'AFD depuis très longtemps. Et dans notre démarche d'accompagnement de ces filières à travers la reconnaissance d'indications géographiques, c'est vraiment montrer que l'agriculture familiale n'est pas uniquement une agriculture de subsistance tournée vers l'autoconsommation, mais qui est une agriculture également et avant tout moderne, orientée vers les marchés, à destination des marchés locaux mais également à l'export, et qui s'insère dans des filières de transformation et de valorisation de ces produits.
Alors comment est-ce que vous définiriez ce principe d'indication géographique en quelques mots ?
C'est un droit de propriété intellectuelle qui a une particularité puisqu'il est collectif. Il concerne un groupe de producteurs et un groupe d'acteurs d'une filière. En tant que droit de propriété intellectuelle, c'est un signe distinctif qui lie la qualité d'un produit donné à son origine géographique et à une particularité et une qualité spécifique qui est liée à cette origine et à un savoir-faire associé, un savoir-faire traditionnel.
Alors justement, pour bien comprendre comment un produit peut prétendre à ce label, je vous propose d'aller dans l'ouest du Cameroun, à 3000 mètres d'altitude. La ville d'Oku est perchée sur les flancs de la montagne de Kilomijim. Le paysage est dessiné par des cultures en terrasse et des terres rocheuses et pelées, qui rappellent d'ailleurs l'origine volcanique de la montagne. C'est l'un des rares endroits où il fait moins de 10 degrés le matin. Mais si Oku est connu dans tout le Cameroun, c'est grâce à son miel blanc. Il a un goût exceptionnel, un peu citronné, qui provient justement du climat et de la diversité des espèces des arbres de la forêt, un écosystème que l'ONG Kamju essaie de sauvegarder et de développer depuis 2011. Alice Milo a rendez-vous avec Emmanuel Binioui, son directeur.
This is where found in Oku.
Nous sommes ici à Oku, sur le mont Kilomijim, tout près de la forêt communautaire. On est ici sur l'un des points les plus élevés du pays, à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est la deuxième montagne la plus haute du Cameroun. Comme vous pouvez le voir, c'est un paysage rocheux, car la montagne est un ancien volcan.
Et donc là, effectivement, on voit bien que cette forêt, finalement, elle coiffe le sommet de la montagne, et en dessous commencent les champs. Le travail des champs a commencé, là d'ailleurs, on voit plein de gens qui sont en train de biner les champs. On est à quelques mètres des premières habitations hein, qui longent la forêt, on voit les toits des fermes qui sont vraiment pas loin. Oku, c'est un village qui est de combien d'habitants ?
Il y a 130 000 personnes qui vivent à Oku. Ce sont principalement des agriculteurs. Mais si on tient compte de ceux qui habitent à moins d'une journée de marche de la forêt, on peut compter plus de 200 000 personnes. Et donc il y a une forte pression, car à cause du manque de travail et de la pauvreté, tous ces gens dépendent de la forêt.
On y va ? On rentre dans cette forêt ?
Oui, on y va. On va entrer dans la forêt. D'ici 2 minutes, nous serons à l'intérieur.
This forest to us is very special.
C'est une forêt vraiment spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, quand on marche à l'intérieur, il y a des ruches en forme de cylindre comme celle-ci. Oui, parce que c'est vrai, je parle depuis tout à l'heure, Mais je ne vous ai même pas encore dit ce qui rend cette forêt si spéciale. Eh bien, c'est le miel blanc de Oku. C'est un miel certifié indication géographique protégée. C'est d'ailleurs juste à partir de cet endroit que débute cette IGP. Si le miel qui est produit ici est blanc, c'est à cause de ces arbres que vous voyez là. Vous voyez celui-là qui est en train de fleurir ? Il s'appelle Schaeffler Mani. Et là aussi, il y a un autre Schaeffler Abyssinica. Et voilà, c'est donc grâce à ces deux arbres que les abeilles produisent le miel.
Les gens d'ici produisent du miel depuis très longtemps ?
Oui, la forêt a toujours été là, et l'apiculture n'est pas une activité nouvelle. Ils en produisent depuis très longtemps, avant même qu'ils ne soient vendus. Avant, les gens d'Oku allaient à Gambé avec leur miel. C'est une autre communauté où ils fabriquent essentiellement de l'huile de palme, et donc ils faisaient du troc.
Mais Emmanuel, quand vous êtes arrivé ici en 2011, si vous avez fondé Kamjoui, l'ONG que vous présidez aujourd'hui, c'est parce que cette forêt était menacée.
Oui, on a découvert plein de problèmes. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a que des grands arbres. Les petits étaient systématiquement coupés par les gens du coin qui les utilisent pour faire du bois de chauffe ou pour fabriquer des outils. Et les chèvres faisaient également beaucoup de dégâts.
On en voit là partout autour de nous d'ailleurs, elles sont en train de brouter, elles sont en train de brouter aux abords de la forêt.
Oui, il y a beaucoup de chèvres, beaucoup de moutons. Au sommet de la forêt, il y a une zone de savane avec de l'herbe fraîche. On y trouve des centaines de chèvres et même des vaches, mais parfois ces animaux quittent la zone et viennent brouter les jeunes arbres de la forêt. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que la forêt est un écosystème. Chaque arbre a un rôle à jouer et rien n'est inutile.
The biggest problem that we have too is bushfire. Bushfire has been one of the greatest problems in the Kilimanjaro forest.
Mais le plus gros problème que nous ayons, ce sont les feux de brousse. Souvent, cela arrive parce que les apiculteurs ont besoin de faire de la fumée pour éloigner les abeilles et récolter le miel. Souvent, ils utilisent une méthode d'enfumage traditionnelle. Mais les étincelles tombent, ils ne les éteignent pas et ça déclenche des feux. Et du coup, tout brûle. La forêt, les ruches de l'apiculteur, mais aussi celles des autres. C'est une vraie catastrophe.
Alors on a quitté la forêt de Oku, on est redescendu dans le village. Là on est en train de marcher au milieu des maisons. Quelle solution finalement, comment votre ONG Kamjoui a décidé de résoudre ce problème pour sauver la forêt ?
On a pensé qu'il fallait encourager les populations à pratiquer encore plus l'apiculture. Parce que quand les gens possèdent des ruches dans la forêt, ils font attention. Ils veulent récolter le miel et donc ils protègent et leurs ruches et la forêt. Donc il nous a paru important de former les habitants d'Oku pour qu'ils apprennent à construire leurs ruches et à pratiquer correctement l'apiculture. Et donc là, justement, on va aller voir ensemble comment on construit une ruche.
Donc c'est vous, monsieur, le constructeur de ruches ?
Yes.
Oui, c'est moi.
Vous êtes entouré de lanières de bambou et vous commencez déjà à travailler à construire la ruche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre technique ?
J'utilise du bambou de raffia ou du bambou de Chine, car ce sont les matériaux qui permettent le plus facilement aux abeilles de fabriquer leur cire. Si les abeilles manquent de fleurs dans la forêt, notamment pendant la saison des pluies, elles peuvent se nourrir du bambou.
Vous avez une grande lanière en bois souple et vous êtes en train d'enfiler les bambous comme une tresse, en fait. Et ça doit former ensuite un cylindre, c'est ça ?
Oui, j'ai appris à construire ces ruches traditionnelles en observant mon père et mon grand-père depuis que je suis gamin. La dernière fois qu'il y a eu un feu de brousse, j'ai perdu 15 ruches avec les abeilles à l'intérieur. C'est une véritable perte économique, car ici on gagne notre vie grâce au miel. Mais depuis que l'ONG Kamjoui est arrivée, j'ai changé mes pratiques. Avant, quand on partait en forêt récolter le miel dans nos ruches, on faisait du feu sur place. Mais maintenant, on fabrique les enfumeuses à la maison et on part avec au moins 5 litres d'eau. Il faut aussi penser à retirer la paille sèche qui recouvre la ruche quand on enfume. Et après la récolte, on prend le temps de bien éteindre nos enfumeuses. Grâce à la sensibilisation de Kamju, on a radicalement réduit le nombre de feux de brousse à Oku. Avant, quand il y avait des feux de brousse, ça tuait toutes les petites fleurs. On pouvait être sûr que ça allait être une très mauvaise année. Alors que maintenant, on a des fleurs à tout moment.
Donc Yengo vient de terminer de construire sa ruche. Une fois que la ruche est terminée et construite, comment ça se passe ensuite pour coloniser les ruches?
En général, la colonisation ne se fait pas en région froide, c'est-à-dire vers la forêt. Donc après avoir construit la ruche, elle est transportée dans une région chaude, en bas dans la vallée. Donc les ruches sont colonisées là-bas, c'est aux environ 15 km d'ici. Et c'est là-bas où il y a beaucoup d'abeilles. Les abeilles entrent avec une ruche déjà, c'est leur maison. Et ils sont en mesure de construire et pouvoir garder leur nourriture qui est le miel. Et après ce temps-là, l'apiculteur va porter sa ruche d'abeilles. Et il va les amener dans la forêt où il va les placer. Et ça sera un site permanent. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes chanceux puisque Yengo, qu'on a vu tout à l'heure ce matin, construit la ruche pour nous. Il va transporter la sienne dans la forêt qu'il a déjà fait coloniser. Et je pense qu'on va monter avec lui.
Ah, bah le voilà.
Le voilà déjà. Bon.
Alors ça y est, donc Yengo porte la ruche. C'est un gros cylindre en bambou hein, qui doit faire à peu près un mètre de long. Donc là, on commence l'ascension vers la forêt. Hein.
Oui, on commence l'ascension et je pense qu'on va monter. On va marcher près de 700 mètres ou 1 km avant d'arriver au niveau de la forêt.
Yengo, combien de ruches vous avez déjà placées comme ça dans la forêt, dans la montagne?
Jusqu'à maintenant, j'en ai déposé 14.
Est-ce que c'est un moment de votre travail d'apiculteur que vous aimez particulièrement?
C'est l'un de mes moments favoris. Quand je transporte mes abeilles dans la forêt, je me dis que très bientôt, j'aurai une récolte. Je souris d'avance à ce qui m'attend.
Yengo, vous savez combien elle pèse, la ruche que vous avez sur la tête, là?
Elle doit peser environ 25 kilos. Mais quand les abeilles se reproduisent, la ruche peut peser beaucoup plus lourd. Il faut être très prudent quand on les transporte. Car si on les secoue trop, la cire qui est à l'intérieur risque de se casser. Et je pourrais perdre les petits qui sont dedans.
Là, la ruche de Yengo, elle est au milieu de la forêt, au milieu de toutes les autres ruches. Il y a énormément de ruches autour de nous. Comment peut-il être sûr que personne ne va lui voler son miel?
Je pense qu'à Oku, l'apiculture en général, c'est une activité sacrée et il n'y a pas de vol de miel dans la forêt. Mais l'histoire a montré que chaque personne dans la forêt, soit dans la tribu Oku ou dans la tribu Kom, lorsqu'il vole du miel dans la forêt, il y a toujours des maladies qui attaquent ces voleurs de miel.
De la sorcellerie?
De la sorcellerie, un style de sorcellerie. Donc. Mais aussi, chaque utilisateur de forêt, s'il est en forêt aussi, et qu'il est beaucoup fatigué, et il a faim, et il ne trouve pas quoi manger, s'il retire un morceau de scie d'abeille dans la ruche de quelqu'un, ça, ce n'est pas du vol. C'est une personne qui est affamée. Et très rarement, à Oku, tu peux entendre parler que quelqu'un a ouvert la ruche d'une personne et récolté. Très rarement, mais aussi, comme je disais tantôt, ceux qui ont fait cela, on finit très mal. Quel est l'intérêt d'avoir fondé des coopératives en fait?
Beaucoup de gens fabriquent du miel et sans la coopérative, ils ne seraient pas transformés correctement. Ils risquent de le goûter avec une passoire sale ou de le conserver dans un seau sale. Alors qu'avec la coopérative, ils sont sûrs de la qualité.
En quoi c'est un miel pas comme les autres, d'après vous, le miel blanc de Oku?
Eh bien, je vous invite à regarder ce miel. Regardez comme il est beau. La couleur est incroyable et l'odeur qui s'en dégage est si puissante. Il me fait saliver avant même que je le goûte. Et quand vous le mettez dans votre bouche, il a ce goût de fleurs un peu fumées et cette texture crémeuse. Vous voyez, si je suis une personne dynamique et en pleine forme, c'est parce que je mange ce miel tous les soirs. Et je m'endors à la minute où je m'allonge sur mon lit, jusqu'au matin. Rien ne me réveille. Et quand je me lève le matin, je suis comme régénéré. Et ce miel a aussi des propriétés médicinales. Si vous avez mal au ventre ou à la tête, si vous êtes constipé, ça soigne aussi le stress ou les faiblesses sexuelles. Ça vous rend plus fort et vous n'aurez jamais de problème.
Il est vendu où ce miel ensuite ?
They sell it in Yaoundé, they sell it in Douala, they sell it in Bamenda.
Il est vendu à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à Kumba. C'est une très grande activité génératrice de revenus pour les gens d'ici. On vend le litre à 4000 francs CFA, soit environ 6 euros. Ça permet aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller à l'hôpital s'ils sont malades, grâce à l'argent du miel. Un jour, il y a un apiculteur dans un village non loin d'ici qui nous a dit « Ma maison, c'est grâce au miel. L'école de mes enfants, c'est grâce au miel. Et la dot de ma femme, c'est grâce au miel. »
La meilleure façon d'impliquer les gens dans la protection de la nature, c'est qu'ils y trouvent un intérêt financier.
Oui, et là, la relation est très claire entre l'apiculture, la préservation de la nature et les affaires. Le miel est un excellent moyen de préserver la forêt de Kilimanjaro, de lutter contre la pauvreté, de raviver l'économie et de lutter contre le changement climatique.
Un reportage de Alice Milo et de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron. L'ONG Kamjou fait partie du programme des petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial. Ce programme est géré par le comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chef de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Vous avez vous aussi accompagné les producteurs de miel d'Oku. Alors du miel qui se vend 10 000 francs CFA le kilo, c'est quand même beaucoup d'argent, ça fait à peu près 15 euros. Et on comprend que ça attise les convoitises et la fraude. Alors comment est-ce qu'on fait pour défendre son label ?
Oui, c'est toujours un sujet dans le cadre des indications géographiques, puisque l'objectif de l'IG, et le premier objectif des producteurs, des acteurs de la filière, c'est d'augmenter leurs revenus. Et donc, associé à cette démarche d'indication géographique, il y a tout un tas d'activités de communication, de marketing autour de leurs produits pour essayer de toucher des marchés de niche à plus forte valeur ajoutée et donc pouvoir vendre leurs produits à un prix plus cher. Donc très souvent, on observe en parallèle de la mise en place de l'IG une augmentation de ce prix de vente lorsque la démarche marketing est bien mise en place.
Mais il y a du coup des petits malins qui essayent de copier et de piquer un peu des parts de marché.
Effectivement, l'augmentation de ce prix de vente crée des opportunités également. Et en matière de lutte contre la fraude, il y a aujourd'hui deux sujets. La lutte contre la fraude sur les marchés, donc venant de l'extérieur, un miel ou un poivre, on le verra aussi dans le cadre du poivre de Penja, qui viendrait d'une autre origine et qui serait vendu sur les marchés sous le label poivre de Penja. Et le contrôle également de bon respect du cahier des charges pour s'assurer de la qualité du produit qui est vendu, avec aussi un opportunisme qui peut exister de certains producteurs de produire peut-être avec une qualité moindre et de le vendre toutefois sous ce label. Donc il y a vraiment un contrôle sur la filière à avoir avec différents niveaux de contrôle, un contrôle interne de l'association des producteurs sur chacun de ses membres pour s'assurer que chaque producteur joue le jeu et respecte le cahier des charges. Un contrôle externe qui est du rôle de l'État. Donc on va pouvoir parler aussi du rôle de l'État et des autorités publiques dans
Parlera dans la deuxième partie de l'émission parce que là on arrive à la fin de la première. Donc on se retrouve, ne bougez pas, on se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.
Ça va ?